Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Confions-nous à la Vierge Marie une fois encore, car la Vierge Marie, puisqu'elle est la servante du Seigneur, elle est remplie d'humilité. Elle ne s'attribue aucun mérite. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Vous pouvez vous asseoir. Si vous vous souvenez, nous avons abordé à dessein les puissances de l'âme. La fois prochaine, je vous parlerai du monde invisible. Ensuite, je vous parlerai bien sûr du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Et je vous parlerai aussi, dans les prochains samedis, des indulgences. Et enfin, je vous parlerai de l'espérance. Nous avons vu les puissances désirantes, la puissance désirante de l'âme. Alors, je vous répète, Dieu nous a donné les moyens de le servir, de le connaître et de vivre en sa présence. Nous ne sommes pas des créatures inertes, nous sommes créés dans la liberté d'une conscience qui agit et nous sommes aptes à connaître l'amour de Dieu, donc à poser des actes de charité. D'avoir avec le Seigneur une vraie communion d'intelligence, d'esprit. Et les facultés que nous avons reçues par le Créateur, c'est pour que nous puissions nous tourner vers lui et lui répondre, parce que Dieu parle. Et l'amour, c'est de répondre à quelqu'un qui parle après l'avoir écouté. Donc il y a une alliance entre Dieu et les hommes, il y a une relation d'amour. Et ces facultés, ces puissances de l'âme, la puissance désirante, la puissance irascible, et la puissance raisonnable sont ces facultés qui peuvent être détournées de leur fin et être utilisées à mauvais escient. Et on fait à ce moment-là ce qu'on appelle l'œuvre des ténèbres. Donc aujourd'hui, j'aborderai la puissance raisonnable. La puissance raisonnable comme passion qui peut être désordonnée, et j'aborderai ensuite les vertus qu'il faut mettre en œuvre et les moyens de guérison. La puissance raisonnable, c'est deux choses quand elles sont détournées de leur finalité. C'est la vaine gloire et c'est l'orgueil. Ce sont les deux passions, les deux désordres de la puissance raisonnable. Et ces passions se rattachent essentiellement, la vaine gloire, à l'orgueil. Elles vont de pair, les deux. La vaine gloire, ça sera donc le besoin d'honneur et de glorification, la recherche d'éclat aux yeux des autres et du prochain. Pour les saints, c'est une honte. Le curé d'Ars, qui a reçu la Légion d'honneur, il l'a fait accrocher à son camail et puis il en a vendu le ruban pour le distribuer aux pauvres. Il ne voulait pas tomber dans la vaine gloire. La vaine gloire, c'est la vanité. Le « m'as-tu vu ?» On dirait aujourd'hui, c'est La course à la mode, les marques, le bling-bling, les paillettes, la satisfaction, l'amour égoïste de soi. Et cette passion que je viens de vous décrire, la vaine gloire, est un désordre qui est ancré profondément en chacun et en chacune de nous. C'est une tentation qui nous accompagne, et souvent inconsciemment. Et quoi que nous fassions, nous n'échapperons pas à cette tentation. Alors comment ça se passe généralement, cette tentation ? Un homme illustre qui a été emporté par la vaine gloire, petit général, premier consul et empereur, il y a Napoléon. Et comme on dit en Afrique, plus le singe monte haut dans le cocotier, plus il montre son derrière, et la chute parfois est brutale. On se fie à soi-même, on se fie à ce que l'on sent, et nous prenons alors même plaisir à résister aux conseils et aux suggestions des autres. Nous campons sur nos positions, notre argumentation, et nous nous justifions. Et certains diront, ben moi je suis comme ça, hein. Il faut me prendre comme je suis, moi je dis ce que je pense. La vaine gloire, quand elle s'exprime, elle n'a pas de rival dans le domaine de la subtilité. Elle est très subtile, cette vaine gloire. Et quand on parle de porte ouverte, il faut savoir que la vanité, la vaine gloire, ouvre, livre notre âme à l'influence du démon. On parle de porte ouverte, moi je dis, on fait un cadeau au démon. La première forme de vanité, c'est quoi ? Une autosatisfaction, une fausse assurance qui est souvent basée sur les biens terrestres. Ce peut être l'assurance vie, ce peut être l'acquisition de domaines et de propriétés, ce peut être la réussite professionnelle. Ou, très intéressant, nous sommes fiers de montrer nos origines familiales, tout ce qui va avec notre nom, notre titre, notre clan, notre richesse, notre héritage, notre généalogie. Nous avons participé à certains événements historiques. Et ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une famille qui leur permettent de se montrer, eh bien, ils se fabriquent des bagues avec des armoiries. On peut aussi se glorifier dans une vanité et une gloriole des dons reçus. On désire l'admiration pour la beauté de notre corps, la beauté de notre peau, la qualité de nos cheveux, notre allure, notre prestance, notre voix. D'où l'intérêt pour tout ce qui brille, la mise en valeur du corps, tout ce qui se remarque, tout ce qui se sent, vêtements, chaussures, parfums, et on peut en imaginer de toutes sortes. Et dans ce domaine, on rejoint une autre puissance de l'âme détournée, la puissance désirante. On veut l'admiration pour nos qualités. Je ne fais pas mon âge, vous trouvez ? On est heureux de notre habileté, notre savoir-faire. Et d'une manière plus subtile, nous pouvons nous montrer fiers de nos qualités intellectuelles, de nos diplômes, de nos décorations, de notre carnet d'adresse. Et de cette vaine gloire, qu'est-ce que nous attendons ? Trois choses : la considération, l'attention, la reconnaissance. Dans certains cas, cette attitude est si grave qu'on est obnubilé par la quête d'une situation sociale toujours plus élevée. Maire de son village, député, chef de parti, président de la République, président de l'Europe. On se positionne donc dans une soif des premières places. C'est ainsi qu'il n'y a alors plus qu'un seul pas à franchir pour tomber ensuite dans ce que je viens de vous décrire, l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir est l'esprit de domination. Saint Jean de Climaque dit « Sois attentif et tu remarqueras que jusqu'à la tombe, l'impie, chez lui, vaine gloire foisonne, que ce soit dans les vêtements, les parfums, l'escorte de serviteurs, les aromates ou d'autres choses comme les pierres tombales. » Ça, c'est moi qui rajoute. Dans ce besoin démesuré, ce besoin du regard de l'autre, où le moi, le fameux moi, exige une reconnaissance absolue, il y a quelque chose qui s'exprime ou qui se cristallise. En fait, nos manques, nos frustrations, frustrations du passé, besoin de revanche, en fait, s'exprime quoi ? Notre vulnérabilité, notre fragilité et notre superficialité. Alors, un simple sourire pourra être perçu pour nous. Ah, quelle bouffée d'oxygène ! Il m'a souri, elle m'a souri, une reconnaissance. Ah bon, il ne m'a pas souri ? Et c'est le désespoir. À l'opposé, une remarque ou une inattention peuvent être interprétées comme un rejet ou même comme une persécution. Tandis qu'un esprit qui est émancipé de ce genre de choses, qui n'est pas dans cette vanité ou cette fausse gloire, elle va supporter courageusement et joyeusement l'injure. Il sera capable de se passer sans dommage d'une absence de louange. Cette vaine gloire, il faut savoir une chose, c'est le principal carburant qui alimente et qui introduit l'orgueil en nous. Et à la fin, on devient bouffi d'orgueil, le cholestérol de l'âme. Naturellement, on fait un AVC et on rate le paradis. Saint Jean Chrysostome disait: malheureux que je suis, sur moi pèse la domination de beaucoup de gens, puisque je suis dépendant, l'esclave de tout le monde par le désir de plaire à tout le monde. La vaine gloire, c'est donc une forme de vanité qui va se manifester chez les spirituels aussi. Un vrai saccage pour l'âme. Elle entretient le trouble et maintient les pensées dans la confusion. L'orgueil que je vous ai décrit, c'est l'orgueil du passant, de la rue. L'orgueil du spirituel, c'est celui de la basilique. C'est moi, c'est nous, c'est vous. Le spirituel creux et bavard. Il parle des grâces reçues. Il fait du ramdam. Vous voyez ce que je veux dire. Il se glorifie en lui-même de ses vertus, de son ascèse. Il s'affiche comme croyant aux yeux des hommes. L'admiration, les louanges d'autrui quant à ses vertus lui sont essentielles. D'ailleurs, moi souvent je me dis, tiens, comment se fait-il que quand tu dis la messe en privé, tu n'es pas aussi pieux que quand tu l'as dit devant une foule nombreuse, réfléchis. Il y a un passage de l'Écriture dans l'Évangile qui dit une malédiction, malheur lorsque les hommes diront du bien de vous. Ce démon de la vaine gloire est très vite repéré et repérable chez les spirituels. c'est l'orgueil de se croire parfait. Notre âme a naturellement un amour pour la gloire. Mais ce dont elle doit se préserver, c'est la gloire du ciel. Mais elle ne doit pas succomber à la gloire de la terre. Donc la gloire en soi n'est pas mauvaise, mais c'est la vaine gloire qui est mauvaise. Et il faut bien faire la distinction entre la gloire qui vient de Dieu et celle qui vient des hommes. Jeanne d'Arc, dans son procès, l'a très bien manifesté. La vaine gloire peut tout envahir, elle est subtile, elle peut l'emporter sur toutes les passions et désordres de l'âme. Elle peut tourner à l'idolâtrie. Les anciens la comparent à un oignon. Vous savez, un oignon, quand on lui ôte une peau, on en retrouve aussitôt une autre en dessous. On la retire et il y en a encore une autre après. Toutes ces peaux. Eh bien, la vaine gloire procède un peu comme ça. Les peaux successives, un exemple. Par exemple, nous jeûnons et nous en tirons satisfaction. Mais comme nous nous rendons compte que nous en tirons satisfaction ou qu'on risque d'être remarqué, nous suspendons notre jeûne pour ne pas être remarqué, deuxième peau, et nous nous glorifions de notre prudence. Ou bien, on peut porter de beaux vêtements, de marque, on en est fier. On se rend compte qu'on en est fier, alors nous en prenons des plus modestes. Et nous sommes fiers de notre modestie. Il est difficile d'échapper à la vaine gloire, et comme je vous le dis, je vous l'explique, elle est assez subtile. Et pour nous en débarrasser, eh bien parfois, lorsqu'on s'en débarrasse, ça devient une nouvelle source de vanité. La vaine gloire est tellement subtile qu'elle peut porter chacun de nous jusqu'à nous montrer zélés dans l'ascèse, zélés dans la génuflexion. Attention. Les actions de ce genre, ainsi pratiquées, sont illusoires. La vaine gloire peut nous maintenir effectivement et nous plonger dans l'illusion. Car la vanité va nous inciter plus à l'action qu'à la charité. La faveur du monde va l'emporter sur l'amour du Christ. La vaine gloire fera qu'on va pas faire, on ne va pas juger correctement nos émotions et nos sentiments. Nous faisons le bien et on est incapable de porter le poids du bien qu'on a fait et on tombe de nouveau dans de la vanité. Oui, la vanité peut nous, la vaine gloire nous plonge dans l'illusion. Et il faut savoir que cette vanité dont nous tirons plaisir et nous attachons à elle, nous sommes prêts à tout pour conserver ce plaisir que nous procure la vanité, à souffrir des bassesses, des humiliations dans le monde des affaires, de la finance, de la politique. Je me suis surpris, je vais vous raconter une petite histoire en ce qui me concerne, parce que, en vous parlant, je m'hospitalise moi-même à domicile. C'est ceci. J'ai des fonctions dans une maison éminente de la République et je dois la quitter. Et je me dis, peut-être que je pourrais la garder. Je ferai ce que je fais, et plus en plus. Mais quand je réfléchis bien, pourquoi je veux rester dans ce que je fais parce qu'il y a de la vanité, il y a de la mondanité, et j'ai peur de perdre le plaisir que j'ai dans la mondanité. Pour tout vous dire, je suis aumônier à la maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. On voit passer du beau monde. Vanité des vanités. La vanité dévoile en fait une chose en nous-mêmes, notre ignorance. On est aveuglé et on fait fausse route. Le vaniteux ignore la valeur des choses et en tire une gloire. Le vaniteux, il accorde une importance démesurée à des choses qui en sont dépourvues, qui sont futiles et qui sont fragiles et qui sont provisoires. Il a une valeur du monde qui est inversée. La vaine gloire va vous faire croire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. On va s'attribuer des vertus, des qualités que nous n'avons pas. Et nous ne voyons même pas les travers, les passions, les perversions, les défauts que nous avons. Il y a donc une survalorisation de l'ego avec une jouissance que nous avons en ce que nous croyons pouvoir avoir atteint et espérons atteindre. Et cela va entraîner le mépris d'autrui, qui bien sûr ne peut pas comprendre. Et puis nous vivons dans des projections issues de nos désirs, de notre imagination. La vaine gloire, voici une définition, est une nourriture qui flatte votre âme, notre âme pour un temps, mais qui la rend vide tôt ou tard et la plonge finalement dans la déception et l'amertume. Comment exécute-t-on cette vaine gloire ou comment la retourne-t-on? Eh bien, on retourne et on guérit la vaine gloire par une chose. Tout d'abord, on ne peut pas y arriver sans se faire aider. Car renoncer à toutes nos tendances égocentriques afin de nous subordonner au projet de Dieu, que ta volonté soit faite, et non pas que ma volonté soit faite. Je me rappelle cette blague, on fait monter le général de Gaulle au Sacré-Cœur, et puis se met en prière devant le Saint-Sacrement, et vous savez ce que dit le général au Saint-Sacrement ? Ô Sacré-Cœur de Jésus, aie confiance en moi. Je t'aime. Cela exige donc un renoncement de nos tendances égocentriques afin de nous subordonner au projet de Dieu. Pour y arriver, il faut un discernement. Il faut connaître les différentes facettes de notre volonté. Il faut toujours avoir quelqu'un à qui s'adresser pour qu'il puisse vous faire ce qu'on appelle les corrections fraternelles. Et cette obéissance, elle est nécessaire parce que c'est ce qu'on appelle l'aide reçue d'une direction spirituelle ou fraternelle. Dans le mariage, ça peut être l'épouse ou l'époux. Dans la vie de l'Église, le supérieur, le maître des novices. Ou une personne avec qui on a plaisir à aller en pèlerinage et qui vous connaît bien. L'aide nécessaire, l'accompagnement spirituel, permet de s'instruire de quoi ? De l'obéissance à Dieu et d'y entrer. De renoncer à notre volonté propre, donc de ressusciter notre liberté. Car la liberté, elle est donnée pour répondre à Dieu qui nous parle, dans l'esprit de sa grâce, dans le sens de l'Esprit Saint. Et par conséquent, ça va nous permettre d'avancer sur un chemin qui s'appelle le chemin de la pleine conscience de l'amour de Dieu, de ce que je suis, du néant qui est le mien, et de la grandeur qui est le bon Dieu, Ça va permettre aussi, grâce à un directeur spirituel, une mère spirituelle, un père spirituel, à ne pas s'aliéner. Et le directeur spirituel va engendrer non pas un enfant spirituel qui serait issu de lui ou d'elle. Le directeur spirituel engendre un enfant de Dieu. Et le dirigé et le directeur spirituel, tous les deux en commun, sont à l'école de la vérité. Ça sera un ami de votre âme. Tout comme l'époux et l'épouse s'aiment vers Dieu. Et ils sont à l'école de la vérité. À quoi nous aide l'accompagnement spirituel ? À une seule chose, à intégrer notre mort, à prendre la pleine mesure de la vanité, à remettre les choses humaines à leur juste place. Si vous voulez vous entraîner à cela, imaginez-vous à l'instant que ce soir vous mourrez. Je suis sûr qu'à la sortie, vous ne ferez pas les mêmes dépenses. Vous n'aurez pas les mêmes soucis. Commence ta journée comme si tu devais la finir le soir pour paraître devant Dieu. Par la mort, Seigneur, tu as vaincu la mort de notre égocentrage. La Vierge Marie, l'humble servante, tenait son âme égale et silencieuse. Elle n'avait pas cette vaine gloire. J'aime bien cette parole de saint François qui dit « Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre sœur, la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront dans le péché mortel, mais bienheureux celles qu'elles trouveront en tes très saintes volontés, car la mort seconde ne leur fera pas de mal. » Louez, bénissez mon Dieu, mon Seigneur, et rendez grâce, et servez-le avec grande humilité. C'est ça la conversion, c'est ça la joie de vivre. L'humilité, je tiens mon âme égale et silencieuse. L'humilité de Bernadette Soubirous, oui Soubirous, ça n'est que ça. Le canard ne fait que, je vous le dis toujours, le canard ne fait que coin-coin, la poule ne fait que côte-côte, et le pinson ne fait que cui-cui. Eh bien, vous, ce n'est que ça. Mais vous savez une chose, le bon Dieu vous aime et vous n'avez aucune convoitise parce que vous savez que vous avez déjà tout reçu. Thérèse de Lisieux développe ça avec les petites fleurs. Qu'est-ce qu'il faut donc modifier en nous ? Il nous faut repousser tout ce qui peut nous attirer de l'honneur, distinction, éviter de se faire tartiner de compliments, éviter ce qui peut, dans nos paroles, signaler notre mise en avant, nous singulariser dans nos comportements, être discret dans sa vie spirituelle. Trop parler abîme l'âme. Vérifiez aussi dans quel état d'esprit on fait les choses. Je fais ça, mais ça profite à qui ? Au bon Dieu ou à moi ? Ça profite à qui ? Une question qu'il faut toujours se poser. Au grappin, à mes frères, à moi, au bon Dieu, à l'Église, à la Banque de France. Si c'est pour notre gloire, ou bien si c'est pour la gloire de Dieu. Pour toi, Seigneur, et non pas pour moi. Avec toi, et non pas sans toi. Il s'agit donc de passer du faire-valoir à la louange. C'est pour ça qu'on dit dans les communautés de prière, commencez par la louange. La louange fait qu'on se tourne dans un oubli de soi, pour rendre tout au bon Dieu. Passer du désir d'être remarqué à la recherche de la solitude. pour diriger totalement son esprit vers le bon Dieu. L'hypocrisie est un grand danger pour se faire aimer. La personne qui est guérie de la vaine gloire, elle aura une force parce qu'elle ne va pas craindre l'humiliation. Et puis elle n'aura pas de rancune contre ceux qui l'auront ou celles qui l'auront offensée ou insultée. Elle conservera toujours l'amour du prochain, l'esprit fraternel qui rend indifférent l'amour de la gloire. J'en ai terminé avec la vaine gloire. Mais la vaine gloire, c'est l'antichambre de quelque chose de plus mortel. La vaine gloire est précurseur de quelque chose, de l'orgueil. L'orgueil est la racine et la conséquence de tous les désastres qui conduisent au péché et aux passions qui engendrent le péché. Indissociable de la vaine gloire, l'orgueil est la mère de bien des choses, mère du blasphème. Mais si Dieu il est bon, pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai entendu? Bien, pourquoi? Ah bon, tu prétends dans ton cerveau comprendre le pourquoi des choses? Ne dis jamais pourquoi. Comment se fait-il? Et vous voyez, quand une épouse dit à son mari, je l'ai déjà dit, pourquoi tu rentres si tard ce soir, chérie? C'est quand même pas pareil. Comment se fait-il que tu rentres si tard? L'orgueilleux fait facilement des procès. Mépris d'autrui, blasphème, jugement, esprit de domination, endurcissement du cœur et désobéissance. Des petits rois. La première forme de l'orgueil, on peut la voir dans le rapport à nos semblables ou dans notre vie spirituelle. L'orgueilleux est celui qui recherche une supériorité, même s'il ne pense pas déjà la posséder. L'orgueilleux n'hésite pas à s'attribuer lui-même les mérites et les bienfaits qu'il possède. L'orgueilleux s'estime, s'admire lui-même, se félicite et se loue intérieurement. C'est la parabole du pharisien, du publicain. Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Saint François d'Assise disait, on ne doit pas s'élever par rapport à nos semblables, mais plutôt cultiver. Il faut cultiver l'humilité. Croire les autres supérieurs à soi-même, quel qu'il soit. Si vous êtes capable, quand vous regardez quelqu'un, de vous dire « il est supérieur à moi-même », vous en tirerez une grande joie et grande paix. Et vous pourrez découvrir la richesse de cette personne. Et c'est reposant, je vous l'assure. Sinon, c'est quasiment comme les Jeux Olympiques, il faut toujours rester en tête. Croire les autres supérieurs à soi-même, l'orgueilleux aussi se plaît à se mesurer. Il y a un esprit de compétition qui n'est animé que par l'orgueil. Se mesurer aux autres. Ou bien rabaisser l'autre. Et en public, avec une remarque devant les autres. Alors gardez de haut. Cet orgueil conduit à ne faire aucun cas du prochain, comme si le prochain n'était rien. Alors cet orgueil qui rabaisse un être humain et ignore sa propre misère et ne reconnaît pas la grandeur de l'autre, c'est plutôt un péché d'ignorance. Parce qu'il ne sait pas que l'autre est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il ne sait pas ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Il ne sait plus que Jésus a livré son corps et sa chair pour le salut de mon frère qui est en face de moi, tout comme il l'a fait pour moi. Donc c'est pas l'orgueil, ce qui est à l'origine, c'est pas la connaissance, mais l'ignorance et la méconnaissance de Dieu. C'est souvent par méconnaissance. Et Jésus dira sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont orgueilleux. Ils sont ignorants. Si tu savais le don de Dieu, ça veut dire espèce d'orgueilleux. » Oui, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je paye la dîme, je fais ceci et je suis cela. Alors la catastrophe des catastrophes, c'est quand l'orgueil finit par être pris par de l'humilité. Oh, on peut transformer l'orgueil en une sorte d'humilité. Alors là, il n'y a plus de remède. On pense que tout est à notre avantage. Nous concluons notre supériorité chaque fois que ça nous convient. On critique systématiquement la façon de penser de l'autre en disant « il ne s'améliore pas ». D'où la phrase de l'Évangile. Tu es capable de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais la poutre chez toi, tu ne le vois pas. Donc l'orgueil devient à ce moment-là prétention, accaparement des mérites et des bienfaits, considération aiguë de soi. Et cet accaparement, il est propre souvent chez les chrétiens, chez les spirituels. On ne sait pas rendre à Dieu tout le bien que l'on peut faire. Et ce bien que l'on peut faire, il est si faible. Et sans lui, on ne pourrait rien faire. Donc, quelque part, c'est un péché contre le Saint-Esprit, parce qu'on ne voit pas les perches que Dieu nous a tendues, les circonstances qu'il a créées, les protections qu'il nous a offertes, les anges qu'il a envoyés, pour que nous ne tombions pas. Saint Basile dit, « L'orgueilleux fait étalage de ce qu'il a, et s'efforce de paraître plus qu'il n'est en réalité. Il se montre arrogant, content de lui, empli de fatuité, il sait tout, a toujours raison, d'où son souci de se justifier et sa manie de contredire. Plutôt que de répondre, il préfère se taire en certaines circonstances. Son agressivité, elle prend souvent la forme de l'ironie, du rire mal à propos. Enfin, cet orgueilleux ne tolère pas ni d'être commandé, ni de se soumettre à qui que ce soit, ni la moindre objection. Donc, je vous disais, la forme d'orgueil qui contribue à s'attribuer les bonnes œuvres, les attribuer à soi, non pas à Dieu, ça, c'est l'orgueil souvent des gens spirituels. On arrive, par le don de Dieu, à être vertueux et on s'affiche dans une révolte épouvantable parce que d'autres font les péchés que nous ne faisons pas. C'est intolérable. Comment peut-on faire des choses pareilles? Mais quelle horreur! Parce qu'on s'attribue en fait le succès de son propre œuvre et on ne sait pas que nous aussi nous sommes faibles, que celui qui est sans péché jette la première pierre, disait Jésus. Et Saint Pierre l'a appris à son détriment, « Ce soir, tu mourras renié avant que le coq ne chante. » On se croit en fait libre dans nos actes et dans nos jugements. Ça, c'est terrible, c'est de l'autodéification, c'est de la folie. Voici, comme dit Jean Cassien, l'homme qui n'a pas reconnu Dieu comme son aide, comme il a espéré dans l'abondance de ses vertus, et s'est cru fort de ses petites ressources. Dans le spirituel aussi, l'orgueil, il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Il se rend grâce à lui-même, il ne sait pas dire merci. Il s'enfle, comme si ses propres actions lui avaient été soufflées par lui-même. Alors on doit éviter un péché important, une tentation grave. Parce que l'orgueilleux spirituel, il en vient à souffrir dans ce qu'on appelle une maladie terrible, dans son incapacité de voir et de reconnaître le bien que le Seigneur opère par l'homme, en l'homme. Il souffre d'envie. Il envie. Mais en fait, l'autre, quand il fait quelque chose, c'est grâce à Dieu. Mais on envie l'autre comme s'il avait, c'était l'autre qui avait réussi à faire les choses par lui-même, parce que nous sommes comme ça, nous. L'envie. On envie son frère à propos du bien que le Seigneur dit et fait à travers lui. L'orgueilleux spirituel ou pas est en fait aussi un ignorant qui s'ignore. Il croit connaître, il ne connaît pas. Il croit savoir, il ne sait pas. Et tôt ou tard, il se sépare de Dieu. Pire, il croit aimer et il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Il peut même devenir allergique au pardon. Donc l'orgueil, c'est l'expression même d'une très grande pauvreté de l'âme, qui s'imagine être riche, qui prend ses ténèbres pour de la lumière. L'orgueilleux souffre de voir menacer ou démentir la bonne image qu'il a de lui-même ou la supériorité qu'il affirme par rapport à autrui. Cela entraîne son âme et en son âme une source permanente de souffrance. Ça détruit la paix intérieure. La Vierge Marie, elle était humble, conséquence, elle tenait son âme égale. Le mot égal est très important. Pas d'envie, pas de tristesse. Détruit la paix intérieure. Et on devient, l'orgueilleux devient son propre ennemi. C'est ce qui fait dire aussi à un autre père de l'Église, Saint Jean Climac, les ténèbres sont incompatibles avec la lumière et l'orgueil ne peut pas se concilier avec les vertus de patience, de bienveillance, de bonté, de justice, de force. Et Saint Jean Chrysostome dit, le déluge des malheurs qui inonde la terre n'a point d'autre source que l'orgueil. Et l'orgueil, ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème d'ignorance. On veut schtroumpfer plus haut que son schtroumpf. Donc, vous l'avez bien compris, c'est par l'humilité que l'on retourne la puissance désirante de l'âme déviée dans l'orgueil. Là où l'humilité n'est pas, Dieu n'est pas non plus. Aucune vertu ne peut s'acquérir sans l'humilité. Aucune vertu ne peut subsister sans l'humilité. C'est un chemin, l'humilité, un vrai chemin. Et je crois que si certains font mourir des personnes très âgées, c'est pour qu'elles découvrent l'humilité qu'elles n'ont pas pu acquérir plus jeune par la vertu. Car Dieu reprend tout et il faut bien l'accepter. On doit donc, en cultivant l'humilité, rechercher les qualités qui sont propres à l'humilité. C'est l'art, l'humilité, de se tenir à sa juste place. L'humilité va s'opposer à la démesure, la folie des grandeurs. On ne peut pas dire que Louis de Funès était humble dans ses films. C'est précisément lui, une vraie caricature. Un grand comique d'ailleurs, on en a bien ri. Sa jalousie, son envie, il faut voir le pauvre Bourvil, ce qu'il en prend. pas seulement dans la grande vadrouille, dans la folie des grandeurs. Un vrai spectacle. L'humilité est l'art de se tenir à sa place, s'oppose à des mesures, et la joie de la Vierge Marie vient d'être la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur. On ne s'enorgueillit que de ce qu'il m'a aimé alors que j'étais incapable de l'aimer. C'est Saint Paul. Saint Paul, c'est un orgueilleux qui est tombé de cheval et il a changé complètement. Il est devenu très fort. Les diverses attitudes de l'humilité, je vous les donne. L'attention aux autres, la discrétion, la pauvreté ou même la sobriété, la patience, l'inutilité, la charité dans la gratuité. Et ces qualités de l'humilité sont d'autant plus importantes quand on a la responsabilité d'autres personnes. Elles vous centrent sur une chose, l'humilité, l'accomplissement de la volonté du Seigneur. À la recherche d'une autre gloire que la gloire qui passe par la reconnaissance des hommes. Le saint, il devient simple. Les gens simples, ce sont des gens humbles. Pas d'hypocrisie, pas de calcul politique, pas de combine, pas de manipulation, pas de coup tordu. Le comportement extérieur déborde d'une attitude intérieure. Dépossession de soi, désappropriation de toute gloire. Donc, les deux choses qui vont supprimer l'orgueil, ce sera toujours l'humilité en lien avec la charité. Qu'est-ce qu'il faut modifier en nous ? Eh bien, on va commencer, c'est le carême. Vous avez bien compris, on ne peut pas se convertir sans découvrir la nécessité de cette humilité. Et pour être humble, il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Cette humilité va nous conduire à vivre peut-être en retrait, peut-être dans le détachement, mais pas dans l'indifférence. Elle commence par le cœur. C'est dans le cœur que ça se joue. Mon cœur est le siège d'une énergie infinie. C'est ce qui est déposé dans mon cœur. C'est là où les choses germent. Dans mon cœur, la réalité va fleurir. Eh bien, il faut que la réalité fleurisse. Loin de toute gloire, donc il n'est pas possible qu'il n'y ait pas la prière. La prière va faire germer dans mon cœur ce qui va le rendre disponible, disposé à l'humilité. Par l'humilité, vous allez apprendre qu'il n'est pas possible de pouvoir compter sur ses propres forces. Vous aurez la foi dans la Providence. Vous aurez l'abandon à la Sainte Providence. Je vous cite entre parenthèses que j'ai retrouvé mes cartes bleues. Je les avais perdues mardi. Je les ai retrouvées mardi, la semaine suivante. Et je ne suis pas allé au commissariat. Il y en a une que j'ai retrouvée à midi et le soir avant de me coucher. Mais je ne vous dis pas le saut dans l'inconnu que j'ai dû faire en me disant, est-ce que je tente le bon Dieu ou est-ce que je suis inconscient? Je m'en suis sorti en disant, ben mon compte sera vidé, ben voilà. Et l'assurance ne me remboursera rien, et ben voilà. De toute façon, je vivrai encore demain, parce que le bon Dieu sera toujours là, mais je serai un peu plus pauvre. C'est en priant les âmes du purgatoire que j'ai été exaucé. Donc nous savons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu et que c'est de Dieu seul que nous attendons tout bien. C'est lui seul qui peut nous guérir. C'est lui le grand médecin de notre âme. Donc humilité et prière. Vous saurez qu'il n'y a rien de plus puissant que l'humilité. Quand j'étais curé d'une précédente paroisse, j'avais plein de projets. Je fatiguais tout le monde. Et moi-même aussi. Et puis finalement, j'ai compris que je n'arriverais pas parce que j'ai des paroissiens très intelligents et efficaces. Donc ils me mettaient des beaux barrages et me bloquaient partout. Ben tant pis, je vais faire ce que veulent mes paroissiens. Eh bien finalement, tout ce qui a marché, c'est ce que je n'avais pas prévu. Et tout ce que j'avais prévu, ça n'a pas bougé. Et à la fin, ça fait une magnifique réussite dans l'ordre de la charité et dans l'ordre de la prière. Et c'était tout ce qui comptait. L'humilité pousse l'homme à la prière et la prière le rend humble. De cela va naître la liberté intérieure qui donne à l'homme la force du cœur et qui lui permet sans peur et sans crainte, sans trouble, de connaître la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grande paix que de connaître la volonté de Dieu, et de là va naître la joie spirituelle, la force d'agir et la consolation de voir Dieu mener les choses à leur fin, bien au-delà de vos capacités. C'est alors qu'il ne faudra pas en tirer profit avec des belles plaques de marbre. Monsieur un tel a fait construire cette belle basilique, avec la grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais m'arrêter et je vous souhaite cette grande force de cultiver, de voir en votre âme, de déployer en votre âme un jardin qui favorisera une conscience dans vos actes. Car qu'est-ce que c'est qu'un saint ? C'est celui qui pose pour Dieu le plus d'actes libres, conscients et volontaires. Et la joie vient de la bonne orientation de la liberté qui a donné à Dieu la gloire qui lui revient et qui vous donne la louange, une louange qui vous met dans une joie de participer au plan de Dieu parmi les hommes. Et le plan de Dieu, c'est toujours la charité. Merci beaucoup.